Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Infini Radio. Ce soir, nous inaugurons une toute nouvelle émission, Question de Saint-Trien, donc qui permet aux habitants de notre chère commune de communiquer avec son maire en posant des questions sur des sujets qui les préoccupent. Et nous avons souhaité offrir une nouvelle voie de communication autre que le magazine de la ville ou les panneaux lumineux. Et tout naturellement, en tant que média, nous avons trouvé intéressant de proposer notre antenne pour cela. Donc nous accueillons ce soir le maire de Saint-Trien-sur-Seine, Monsieur Patrick Rocher. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions des habitants de votre commune ?
Eh bien, ce sera avec plaisir. Vous voulez que je dise quand même quelques mots aux habitants
de la commune ?
Si vous voulez
dire un petit mot avant que je vous pose la première question.
Bon, un petit message quand même pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, pour les remercier de justement leur présence par rapport aux questions que vous allez me poser, aux réponses qu'on va pouvoir apporter. Et puis, vous remerciez vous aussi, Infini Radio, qui est sur notre commune et qui a apporté à votre manière de la joie de vivre. Parce que Saint-Trien-sur-Seine, c'est avant tout une petite bourgade de 5800 habitants où il fait bon vivre, avec une équipe municipale qui n'a pas d'autre ambition que celle de rendre le plus possible les gens heureux sur ce petit territoire sympathique de l'Essonne. Voilà un petit message donc à tous les auditeurs, à vous Nathalie et Théo qui êtes à l'origine de la mise en place de cette radio, et puis bien sûr à toute l'équipe municipale et les Saint-Triens.
Merci. Je vais vous demander juste de vous rapprocher un peu de votre micro, qu'on vous entende bien. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est la première sur ma liste. Avez-vous réceptionné les chalets achetés par l'ancienne mandature et pour lesquels aucun permis n'avait été déposé alors que les raccordements étaient réalisés? Et si oui, que comptez-vous en faire? La personne donc, qui pose la question a lu dans les magazines que vous deviez les affecter au service jeunesse et a aussi vu dans le dernier magazine que vous envisagiez le service jeunesse dans l'ancien restaurant Les Tilleuls.
D'accord. Bon, une question qui mérite en même temps plusieurs réponses.
Oui, et non, question avec plusieurs questions.
Effectivement. Donc, s'agissant des chalets, oui, ce sont deux constructions, une d'une centaine de mètres carrés, l'autre de 40 mètres carrés, qui ont été achetées sur commande dans un pays étranger, on va dire dans l'est de l'Europe, par l'ancienne équipe, effectivement. Donc, ces chalets ont bien été réceptionnés depuis peu. Ils sont actuellement sur le site des services techniques, donc site de Corot, sur la commune de Saint-Trien-sur-Seine. Alors, ces chalets, petite particularité, c'est que, en fait, ce sont uniquement des constructions de bois, pour ça qu'on les appelle les chalets, sans pour autant qu'il y ait véritablement de toiture. Ce sont des bacs acier qui étaient prévus, sans qu'il y ait d'éléments d'isolation et de distribution intérieure d'envisager. Donc concrètement, ce que l'on peut dire aux Saint-Triens qui ont posé cette question, c'est que ces chalets ne peuvent pas utiliser comme tels pour recevoir un service jeunesse, dans la mesure où il y aurait trop de travaux à faire, d'aménagements à réaliser. Ce serait beaucoup trop coûteux. Nous en aurions à peu près pour 400 000 euros de frais d'isolation, de réalisation de dalles, d'aménagement complémentaire, plus de réalisation de toiture, en conséquence de quoi ces chalets pour l'un sera implanté sur le site des services techniques pour réaliser du stockage. Et pour le second, c'est un petit chalet qui sera implanté sur ce qu'on appelle l'espace écologique, qui sera affecté à des fins de formation, d'information. Pour tout vous dire, on envisage d'installer une apicultrice qui pourra expliquer aux enfants des groupes scolaires comment fonctionnent les abeilles, comment se fait le miel. Et tout ça au milieu d'un cadre qui est fort sympathique, puisque nous avons de part et d'autre des jardins familiaux qui sont en cours de réalisation, ainsi qu'un verger. Donc voilà, deux chalets, l'un sera affecté au service technique à des fins de stockage et le second plutôt à des fins, on va dire, de formation, d'information et en même temps écologique, puisqu'il s'agit de la mise à disposition d'une personne apicultrice qui habite la commune.
Merci. J'ai donc une seconde question maintenant. Pouvez-vous donner des nouvelles des travaux de l'école Coche et quand auront lieu et de quelle nature sont-ils?
Alors, l'école Coche.
Oui.
Une grande histoire, l'école Coche. Vous savez que toutes les communes, et notamment celle de Saint-Try-sur-Seine, sont très sensibles aux activités qui peuvent être menées dans les écoles. L'enseignement, c'est quelque chose de très important, puisque ça fait partie intégrale de notre société, de notre mode de fonctionnement. Et s'il n'y avait pas d'école, vous savez comme moi que la société se porterait très mal. Donc, soucieux d'un état de santé très satisfaisant pour nos écoles, eh bien, l'école Coche se devait d'avoir des travaux de réhabilitation, notamment des travaux, on va dire, portés sur tout ce qui concerne les éléments de façade, les boiseries, etc., puisque nous avons à faire une école qui date hein, et qui a, pour tout vous dire, du vitrage, du simple vitrage.
Ah, oui.
Donc, il y a vraiment des travaux de façade à mener. Et puis, la commune ayant un peu plus d'habitants qu'auparavant, eh bien, dans l'anticipation, nous devions aussi de respecter les engagements pris par l'ancienne municipalité, à juste titre, hein, des travaux qui portent sur une extension de l'école, qui vise d'ailleurs à avoir un accueil d'une classe supplémentaire. Voilà. Donc l'école Coche, concrètement, travaux de réhabilitation, de réfection de façade, notamment de boiserie, et puis d'extension pour avoir une petite classe supplémentaire.
Ok, et concernant toujours, j'ai une autre question concernant l'école Coche. Il semblerait que deux ATSEM, donc de cette école, partent en retraite prochainement. Pouvez-vous me dire si elles seront remplacées?
Très bonne question. Alors, je tiens à saluer d'ailleurs les deux ATSEM qui partent en retraite, puisque je ne peux pas tout dire ce soir dans la mesure où demain, il se passera quelque chose pour elles.
Ah.
Un message de reconnaissance. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Et nous avons du cœur. Donc, ces deux personnes, je tiens à les saluer ce soir pour tout le service qu'elles ont pu réaliser au bénéfice des enfants de la commune. Donc, c'est un petit message de reconnaissance avant de répondre à votre question. Maintenant, les ATSEM, bien sûr, à la rentrée scolaire prochaine, les deux postes ont été, avec l'équipe du groupe majoritaire, discutés, parce que vous savez que le personnel, ça représente des charges. Des charges, ça veut dire un coût au niveau du fonctionnement. Et donc, le besoin qui est exprimé au niveau de la commune est peut-être excédentaire aux règles générales, puisque nous n'avons pas dans les textes une imposition d'une ATSEM par classe, mais plutôt d'une ATSEM par école, voire pour plusieurs classes selon l'importance de l'école. Donc Saint-Try-sur-Seine a décidé de poursuivre dans la même logique que les équipes précédentes, c'est d'affecter une ATSEM par classe. Voilà, donc si nos finances nous le permettent, eh ben, il n'y a pas de raison, l'équipe municipale souhaite poursuivre dans ce même schéma.
Ok, donc ça c'était pour l'école Coche. Alors j'ai une autre question, là ça concerne les réunions de quartier qui ont eu lieu là très, très récemment. Y a-t-il des sujets communs qui sont ressortis de ces réunions? Et si oui, lesquels?
Alors oui, il y a des sujets communs, mais avant de parler des réunions de quartier, oui, il me semble important de préciser aux auditeurs qui nous écoutent que dès notre investiture, c'est-à-dire en juillet 2020, nous avons décidé de donner de suite la parole à la population en leur permettant de remplir un petit questionnaire à l'accueil de la mairie pour connaître les thématiques qu'ils souhaitaient aborder avec nous, travailler avec nous. Donc c'est ce qu'on a appelé des comités citoyens. Donc l'idée, c'était de faire des priorités sur le programme politique que nous avions pu adresser à l'ensemble de la population. Et de ces comités citoyens, en a résulté, en fait, les réunions de quartier. Donc toujours dans un esprit de démocratie participative. Alors, pour répondre à votre question maintenant, qui concerne les réunions de quartier, on va dire que c'était plutôt deux thématiques principales qui ont été abordées, à savoir l'urbanisme, pour la première, et la seconde, la sécurité. Mais la sécurité sous toutes ses formes, c'est sécurité-sûreté, sécurité routière, sécurité par rapport aux accès aux personnes à mobilité réduite ou toute forme de handicap d'ailleurs. Donc les questions ont principalement tourné autour de ces deux thématiques. Il y a eu bien sûr d'autres questions posées sur la santé, un petit peu sur le scolaire, un petit peu sur la jeunesse, mais c'était principalement sur l'urbanisme et la sécurité.
Tiens, en parlant de santé, c'est une question à moi qui me vient. Comment on peut faire, parce que dans la commune, il y a des médecins, mais qui ne prennent pas de nouveaux patients. Ce qui est un gros problème. Alors, je sais que c'est français, c'est en toute la France, mais en tout cas, on est près de Paris quand même. Et comment on peut faire ?
C'est une bonne question dont la difficulté n'est pas propre à Saintry-sur-Seine. Je ne développerai pas l'histoire de France avec le clausus numerus qui a été décidé dans le début des années 80. Mais c'est important quand même de le signaler parce que si aujourd'hui on manque de médecins en France, c'est pour plusieurs raisons. C'est qu'on a voulu limiter le nombre de médecins, pensant à un moment donné qu'on limiterait le nombre de consultations, ce qui était une grosse erreur en soi. Et puis, il faut dire que la population a augmenté et que le nombre de médecins, lui, n'a pas augmenté. Donc, ce qui a entraîné aussi d'autres soucis, dans la mesure où d'autres médecins ont été appelés à pratiquer à d'autres fins que la médecine, mais à occuper des postes administratifs. Donc, tout ça a fait que, petit à petit, nous avons rencontré des déserts, tout simplement, hein, une désertification du corps médical sur certains endroits de l'Hexagone. Donc aujourd'hui, les politiques, mais là je parle des politiques au niveau national, essayent de trouver des solutions. D'ailleurs, on en a eu le témoignage il n'y a pas très longtemps. Pour ce qui nous concerne, nous, Saintry-sur-Seine, on va dire qu'on est un petit peu gaulois dans cette affaire parce qu'on essaye à notre niveau de faire venir des médecins, mais pour pouvoir faire venir des médecins, il faut avoir des locaux. Donc dès notre arrivée, pour répondre à votre question, nous avions deux médecins, au travers d'une certaine profession qui m'est chère, qui voulaient venir sur Saintry-sur-Seine, mais malheureusement, nous n'avions pas de locaux. Donc nous avons perdu deux médecins. Il y avait également un dentiste qui voulait venir, un orthodontiste, un orthophoniste, deux sages-femmes. Donc on a perdu beaucoup de personnes qui sont liées au corps médical du fait que nous n'avions pas de locaux. Donc la politique que souhaitent mener aujourd'hui les élus de la commune, c'est une politique de médecine de proximité, mais aussi une politique de commerce de proximité, activité de proximité. Donc j'invite tous les auditeurs qui habitent Saintry-sur-Seine à venir aux réunions qui portent sur l'urbanisme, puisqu'on en parle à chaque fois. Ces réunions se tiennent salle Corot tous les 6 mois. La prochaine va se tenir certainement fin juin, la date n'a pas été arrêtée. Donc à cette occasion, on pourra en dire davantage, mais surtout, comme le disait Napoléon, vaut mieux des beaux dessins que des grands discours, c'est présenter des plans pour que les Saintriens voient avec précision où nous souhaitons implanter ces commerces, ces locaux d'activité et bien sûr les différents médecins qu'on souhaiterait voir accueillir dans un cabinet médical mais mixte, c'est-à-dire médecins, sages-femmes et puis centre ni plus ni moins que de remise en forme, de soins. Parce que ce qui est intéressant aussi dans la question que vous posez, quand on parle de soins souvent, moi, je ne veux pas parler de clients, hein, mais de patients, hein, oui. Hein, parce que des fois, on entend dire « oui, c'est le meilleur client du médecin ». Moi, je parle de patients. Donc, les patients les plus nombreux, ce sont les enfants et les personnes âgées. Et Saintry-sur-Seine, dans l'anticipation, puisque nous savons que d'ici 2025, nous aurons un quart de plus de personnes âgées que nous en avions en 2020 à notre arrivée, soit à peu près 1200, pas tout à fait, hein, personnes de plus de 65 ans sur la commune. Donc tout ça, il faut le prendre en considération, même titre que les nouvelles familles qui arrivent avec des enfants, et puis ceux, bien sûr, qui habitaient déjà la commune et qui ont des enfants. Donc penser aux enfants, penser aux personnes âgées, c'est avant tout anticiper l'accès aux soins pour tous ces gens-là, d'où l'intérêt. Et puis puisqu'on y est, je vais vous le dire, puisque Saintry-sur-Seine n'a pas beaucoup d'argent, donc les auditeurs qui nous entendent, sachez que nous allons faire appel au mécénat, à des mécènes, puisqu'il y a une belle propriété qui est en vente, mais nous n'avons pas les moyens pour la racheter. Et cette propriété pourrait permettre justement de monter un centre médical, centre de soins, et en plus au cœur de ville. Donc si les auditeurs nous entendent et qui sont prêts à donner, donc à participer, à être des mécènes hein, à ce projet, eh bien, c'est avec plaisir que nous les accueillerons et je les invite à écrire au cabinet du maire à l'adresse mail suivante cabinet.maire@saintry.fr.
Et si vous y arrivez, bien évidemment, les médecins qui s'installeront donneront la priorité aux Saintriens. Parce qu'on a tous besoin d'un médecin référent aujourd'hui. La Sécurité sociale nous l'impose si on veut être remboursé correctement. Sauf que quand vous avez des médecins qui ne vous acceptent pas, c'est mon cas, je n'ai plus de médecin. Donc, je fais comment ? Voilà. C'est un gros problème. Donc, ce serait bien, s'il s'implante dans la ville, que ce soit exclusivement, enfin, en tout cas, en priorité pour les Saint-Triens.
Oui. On va le dire carrément à la radio et très franchement,
ouais.
À partir du moment où la commune fait des efforts pour accueillir des médecins, il est tout à fait logique que les médecins soient en capacité d'accueillir prioritairement les gens de la commune, bien sûr. Mais nous avons une commune voisine qui nous tient à cœur, puisqu'elle est un petit peu excentrée, tout comme nous, qui est la commune de Morsang-sur-Seine. Ouais. Donc ce serait également quand même un moyen, comme pour les commerces de proximité, de pouvoir permettre à nos amis de Morsang-sur-Seine de bénéficier également de ces prestations, qu'elles soient médicales ou pas. Mais vous avez raison, Saint-Tri d'abord.
Merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Alors bien évidemment, c'est les questions des Saint-Triens, hein, on est d'accord. Hein. Certaines pistes cyclables, hein, les pistes cyclables qui sont dangereuses, allez-vous les revoir ? Gros sujet.
Ah, un gros sujet qui a été posé également à l'occasion des réunions publiques sur l'urbanisme. Je ne veux pas ennuyer nos auditeurs avec les différentes lois, mais parce qu'on a la loi qui s'appelle LOR, hein, la loi R, utilisation rationnelle de l'énergie, mais nous avons aussi la loi d'orientation mobile qui nous dit plein de choses en termes de pistes cyclables. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un autre grand désarroi, d'ailleurs c'est ce qui était dit à la dernière réunion d'urbanisme public, c'est que dès que vous avez une voie de circulation avec une vitesse limitée à 30 km/h, vous êtes dans l'obligation d'avoir une piste cyclable. Dès l'instant où vous procédez à des rénovations de voiries ou création de voiries, vous êtes obligé de réfléchir sur la création de pistes cyclables. S'agissant, puisque les Saint-Triens manifestent souvent leur mécontentement par rapport à la piste cyclable, notamment de la Grande Rue Charles de Gaulle, et la poursuite sur la route de Morsang, elle est hyper dangereuse. Nous avons même proposé de retirer cette voie. Malheureusement et publiquement, nous avons un élu de l'opposition qui a dit « Je serai là pour contester, je serai là pour dénoncer le fait que vous ne respectez pas la loi, mais quand la loi est dangereuse, c'est difficile de dire qu'on peut la respecter. » Et donc, si c'est pour perdre devant le tribunal, puisque de toute évidence, nous perdrions devant le tribunal, eh bien on ne peut que constater que si un mort, tel que les personnes présentes ont pu le dire, qu'est-ce que vous comptez faire ? Ben malheureusement, comme vous, essayez déjà de faire changer la loi. Donc là, c'est une question de législation, donc de parlementaire. Changer cette loi, faire en sorte qu'aux endroits où c'est dangereux, on ne puisse pas systématiquement respecter cette loi pour éviter qu'il y ait des morts, on va dire, réglementaires. Voilà, ce qui serait inadmissible. Donc aujourd'hui, concrètement, par rapport aux Saint-Triens qui posent cette question, nous, ce qu'on peut leur dire, c'est que malheureusement, la loi n'est pas avec nous. Donc on aurait du mal à détourner la loi, puisqu'on serait rappelé à l'ordre. Que pour pouvoir annuler ces pistes cyclables et retirer les inhibés, ben, il faudrait passer la voie à 50 km/h, ce qui serait encore beaucoup plus dangereux. En conséquence de quoi, on en appelle au civisme. On en appelle au comportement de chacun, à l'attention de chacun, que ce soit cycliste comme automobiliste, attention. Lorsque vous empruntez la Grande Rue Charles de Gaulle et d'autres rues où il y a des pistes cyclables, qui plus est à contresens, même si dans la pratique, on peut imaginer que c'est plus dangereux. Non, dans les faits, on voit le danger arriver, donc c'est moins dangereux pour le cycliste. Il faut absolument que chacun se raisonne, que chacun prenne conscience que la route, on ne la prend pas, la route, on l'emprunte.
Et du coup, respecter aussi les limitations de vitesse. Déjà,
y compris en vélo, exactement.
Voilà, y compris en vélo.
Oui.
Autre question sur un autre sujet, on va parler des futurs jardins partagés. Quand sera-t-il accessible aux Saint-Triens et sera-t-il productif cet été ? Est-ce qu'il y aura des fruits et des légumes cet été ?
Alors, pour les jardins, il s'agit en fait de jardins, on les appelle plus familiaux que partagés.
Oui.
Saint-Tri-sur-Seine, pour les auditeurs qui nous connaissent, ils savent pertinemment de quoi il s'agit, puisque nous sommes situés sur la zone de l'espace écologique. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Saint-Try, il faut qu'ils sachent que Saint-Try-sur-Seine, c'est une commune qui est située entre la Seine et la forêt de Rougeot. Donc, on va dire un territoire pour le moins très agréable qui ne pourrait pas s'étendre davantage dans la mesure où de part et d'autre, tout est protégé. Nous avons donc un espace écologique qui a été réalisé par l'ancienne équipe que nous poursuivons. Cet espace écologique, comme son nom l'indique, il est là pour protéger la faune, la flore qui existe sur le territoire. Donc nous avons décidé du fait que cet espace se situe à proximité de deux résidences, enfin une résidence qu'on appelle la résidence du village, mais qui sont des petits HLM. Également une autre résidence qu'on appelle la résidence Santin, pareil, qui sont des petits collectifs. Donc des gens qui n'ont pas cette possibilité de disposer de jardin, qui n'ont pas de propriété à eux, si ce n'est que leur appartement en tant que locataire. Donc l'idée, c'est de leur permettre de quitter leur appartement, de pouvoir travailler la terre en famille, de pouvoir partager avec leurs voisins, parce que nous savons tous que souvent les gens rentrent chez eux, ils ferment leurs portes et il n'y a plus de communication au niveau d'un palier ou très peu. Là, l'idée, c'est en plus de permettre aux gens qui habitent ces différents petits collectifs de pouvoir partager des choses ensemble, en plus du partage familial, et montrer que la terre, c'est l'essentiel, et que le fruit de son travail apporte toujours un certain bénéfice et une certaine joie de vivre. Donc il y a trois objectifs sur ces jardins familiaux. Le premier, c'est que justement les gens puissent bénéficier, pour ceux qui sont en appartement, d'un petit lopin de terre pour pouvoir cultiver fruits et légumes, comme vous le disiez tout à l'heure. Deuxième objectif, c'est qu'il y ait du lien social qui se construise entre les voisins. Et le troisième objectif, c'est de faire comprendre le respect de la nature à tous ceux qui partageront ces jardins. Concrètement, les jardins seront livrés, alors on devait les livrer au 1er mai, pour rien vous cacher, mais avec les gros problèmes de livraison que les différentes sociétés rencontrent, nous avons pris du retard. Mi-mai, tout devrait être quasi terminé. Donc ça veut dire que nous allons passer en conseil municipal au 1er juin le règlement intérieur pour pouvoir donner les clés. Les clés, c'est pas des clés matérielles, c'est la clé, ça veut dire une convention signée avec chacun des utilisateurs pour qu'ils puissent justement faire leur jardinage à partir de juin. De là, vous dire que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir planter? Bon, je suis pas un fin jardinier, mais il y a
fraises, peut-être.
Exactement, quelques légumes.
Des tomates cerises,
voilà.
Des petites choses comme ça.
C'est ce que j'allais vous dire. Et c'est très bon pour l'apéritif.
Oui.
Avec ou sans alcool, peu importe, ça passe partout. Donc, 1er juin, nous passerons au conseil municipal le règlement qui nous permettra derrière à chacun de pouvoir utiliser comme il se doit les jardins familiaux. Je rajouterai juste qu'il y a jardins familiaux sur l'espace. Non, je ne vais pas parler de la surface. Je vous dirai tout simplement qu'il y a 21 petites parcelles. Voilà, c'est ce qui est pas mal. C'est plus judicieux que de vous parler du territoire avec ses surfaces. Ça n'a aucune importance. Il y aura 21 familles, en tous les cas, qui pourront bénéficier.
Parfait. Là, nous avons une question d'une personne qui est assez inquiète concernant la rue des réservoirs, qui est très étroite, et le croisement des bus qui montent dans cette rue lui fait peur, et à chaque fois, du coup, elle ne l'emprunte plus en descente. Et elle demande si vous envisagez de mettre en sens unique, et si oui, si ce sera en montée ou en descente.
Alors, comme dans toutes les communes, les anciennes communes comme la nôtre, il y a beaucoup de rues étroites. Je vais y répondre après directement à la question, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent que Saint-Try-sur-Seine, c'est une ancienne commune qui a plein de petites routes étroites que chacun de nous doit se rendre compte simplement en regardant sa propriété quand on est propriétaire d'une maison qui date depuis 30 ans, que les véhicules ont évolué en largeur, puisque vous avez beaucoup de garages aujourd'hui qui ne sont plus en capacité d'accueillir les nouveaux types de véhicules comme les SUV, etc., beaucoup trop gros par rapport à la largeur du garage. Eh bien, il en est de même pour les routes. Naturellement, tous ces, les voitures, les bus, etc., ont évolué en largeur, en grosseur. Et donc, les rues ne sont pas adaptées, en tous les cas suffisamment adaptées, pour pouvoir permettre cette cohabitation, bus, voiture, etc. S'agissant de la personne qui pose la question sur la rue des réservoirs, en fait, nous en avons discuté dans le cadre des réunions urbanisme et surtout comité citoyen. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Vous parliez de voies à sens unique, donc sens interdit d'un côté et autorisation de circuler de l'autre. C'en est une déjà, de solution. La seconde, c'était de réaliser non pas deux trottoirs, mais un trottoir pour pouvoir permettre un élargissement de la route. Et la troisième, c'était de préempter. Alors là, c'est beaucoup plus difficile, hein. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires qui habitent l'angle oui. de la rue des réservoirs, qui nous mène d'ailleurs sur la rue de Corbeil. Et là, c'était une solution, certes, mais qui pour l'instant ne peut être tenue. Parce qu'on entraîne une gêne chez l'habitant, vous savez comme moi qu'on ne peut pas arriver et puis dire pour des raisons d'intérêt général, on va casser votre mur et on préempte une partie de la propriété. Donc là, nous sommes sur un sujet qui est délicat et il ne faut pas se mentir. Hein. Il est plus judicieux de dire oui, pour le sens interdit, nous sommes dessus. Oui, pour un aménagement d'un et non pas deux trottoirs, donc faire un accotement protégé. Et après, réfléchir pour le reste, pourquoi pas, sur un nouvel itinéraire. Mais ce qui est en soi quasi impossible dans la mesure... Oui, oui, dans la mesure, oui, tout à fait. Et dans la mesure où nous sommes limitrophes avec Saint-Pierre. Hein.
C'est ça.
Donc il faut voir ce que Saint-Pierre-du-Perret fera comme aménagement plus tard. Et pourquoi pas, si la rue du réservoir est un problème, aller chercher le bus, puisque vous savez comme moi qu'il y a, une partie naturelle, hein, des champs, etc., qui sont situés à proximité. Mais on n'en est pas là. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le sens interdit. Oui, cette petite dame a raison, elle a eu des bonnes informations, enfin, cette dame ou ce monsieur. Et puis pour l'autre sujet, c'est plutôt élargir la voie tant que faire se peut, en ne retenant qu'un accotement ou un trottoir, mais pas deux.
Et du coup, si c'est un sens unique, ce serait plutôt en montée ou en descente? C'était la dernière question.
Alors, attention, là, ce que je vous dis, c'est plutôt à chaud, hein, puisqu'on n'est pas allé jusque-là sur le raisonnement.
Au cas où.
D'une manière pragmatique, il est plus judicieux de faire un sens unique en montant qu'en descendant. Voilà, c'est beaucoup plus judicieux. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en pente, la circulation est toujours plus difficile, la conduite est toujours plus difficile, surtout quand il faut faire des démarrages en côte, des choses comme ça. Donc, il faut faciliter la circulation en montant et la compliquer plutôt en descendant.
C'est vrai. Concernant, là, j'ai une question sur la résidence des hameaux de Seine. Envisagez-vous des travaux de voirie dans cette résidence?
Ah, est-ce que le Saint-Trien ou la Saint-Trienne qui a posé cette question n'en a pas dit davantage?
Absolument.
Quel type de
pas.
Travaux? Non.
Envisagez-vous des travaux de voirie dans la résidence des hameaux sur Seine?
Alors la voirie, faut savoir que la résidence des hameaux de Seine, bon, on ne va pas parler de statut, c'est-à-dire copropriété ou association ASL, AFUL, peu importe, association foncière urbaniste libre. Il faut savoir que cette copropriété est devenue sous la gestion d'une association et que la voirie a été rétrocédée à la commune. Donc la commune est propriétaire de la voirie. Donc les travaux voirie, on se doit de les faire en matière d'entretien, mais pas de réalisation, de création. Je ne sais pas si c'était le sujet c'est de la précisé, question, oui. Mais s'il s'agit de travaux d'entretien, oui. S'il s'agit de travaux de réalisation, non, puisque la voirie, la voie existe déjà, elle a été rétrocédée à la commune.
Oui, c'était peut-être du coup d'entretien. C'est oui. Possible.
Alors il y a le président de l'association hein, qui de temps en temps contacte la mairie hein, pour des sujets qui sont propres justement à la circulation, à la copropriété, enfin l'ex-copropriété. Donc il y a quand même des réactions qui sont rapides de la part des services techniques. Je vous donne un exemple concret. C'est qu'il y a eu, à un moment donné, sur la chaussée, un trou qui nous a été signalé. Donc, il a dû être rempli par les services techniques. J'en dirai pas davantage parce que tout est compliqué dans la mesure où tout ce qui est en sous-sol, je parle de l'assainissement, hein, ça relève de la compétence de Grand Paris Sud et non plus la commune. C'est ce que rencontrent toutes les communes d'ailleurs avec les communautés d'agglo. Donc nous on intervient en surface et en dessous c'est Grand Paris Sud. Donc quand il y a des soucis en dessous, on intervient rapidement auprès de Grand Paris Sud pour qu'ils interviennent en même temps que nous ou carrément d'une manière simultanée.
Ok. Question concernant la péniche qui s'est installée dernièrement rue du Port au Sablon. La personne demande que pouvez-vous faire concernant donc cette péniche et surtout comment éviter de nouvelles installations.
Alors, comme nous sommes là depuis 18 mois, ben, y a plein de choses que nous ne savions pas, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Hein. Mais nous avons pu découvrir que cette péniche, qui était décidée par l'ancienne municipalité, enfin, qui a fait l'objet en tous les cas d'une approbation du maire précédent, nous la souhaitions pas, mais alors absolument pas. Pourquoi ? Parce que le cadre est exceptionnel sur la rue du Port au Sablon. De toute façon, le cadre, d'une manière un peu générale, sans être chauvin, est sympathique hein, sur les bords de Seine. Oui. Donc, pour cette péniche, nous avons pris attache avec les Voies navigables de France pour savoir ce que l'on peut faire pour qu'on puisse la voir se déplacer déjà. Hein. Pas forcément la voir retirée totalement, puisque c'est pas si simple que ça, mais ne serait-ce que la voir être déplacée. Donc, nous allons avoir un rendez-vous là prochainement avec les Voies navigables de France. Et pour les auditeurs saint-triens qui nous écoutent et qui habitent en bordure de Seine, nous avons deux saint-triens qui ont déjà entrepris des démarches auprès de la commune pour pouvoir disposer d'anneaux en bordure de Seine et installer leur bateau le temps de la période estivale. Donc, j'en profite pour dire que ça, c'est un sujet qui va être également discuté avec les Voies navigables de France, tout comme les pontons de certains propriétaires. Voilà, donc il y a trois sujets qui vont faire l'objet de cette rencontre avec VNF. La première, c'est la péniche dont vous venez de parler. La deuxième, un règlement qui consiste à dire si on autorise les anneaux, qu'est-ce que vous autorisez au niveau des voies navigables de France. Et enfin, l'installation de pontons chez des propriétaires qui sont vraiment situés au droit des voies navigables de France, ou tout du moins du bras de Seine.
Merci. Une personne qui vient d'arriver sur la commune, donc de Saint-Tri, qui dit qu'elle a un enfant de 13 ans et elle demande s'il existe une structure sur la commune pour cette tranche d'âge.
De 13 ans, vous dites ?
Oui, 13 ans.
13 ans, d'accord. Ah, déjà, je lui souhaite la bienvenue, à elle puis à son fils.
Également.
Ils ont fait le bon choix. Oui, bien sûr, il existe le service jeunesse. Donc, on a un service jeunesse qui fonctionne durant toutes les vacances, ce qui ne fut pas du tout le cas il y a quelques temps. Donc aujourd'hui, le service jeunesse, j'insiste, hein, est ouvert durant toutes les vacances. Donc je l'invite à se rapprocher du service jeunesse qui réalise beaucoup d'activités. Il y a une bonne équipe. Hein.
Pardon, les vacances d'été ou toutes les vacances ?
Toutes les vacances.
Les prochaines vacances, là, c'est
ouvert. Exactement. Exactement. Et ils sont, l'équipe est très, très active et très appréciée. Alors, le service jeunesse, pour l'instant, est situé dans les locaux, on va dire, de l'école du parc, pour rester très, très simple. Donc, elle peut se rapprocher de ce service à hauteur de l'école du parc ou tout simplement prendre attache avec le service administratif qui est situé à l'entrée de la mairie. Et je rebondis en même temps sur cette situation du service jeunesse qui se trouve aujourd'hui dans les locaux d'une école pour dire à ceux qui nous écoutent que la mairie a un projet de réalisation d'un service jeunesse mais qui est situé au cœur de ville à proximité de ce qu'on appelle l'OAP3, hein, une opération d'aménagement programmée à l'époque, qui est située vers un ancien restaurant qui s'appelle le restaurant L'Étiole.
Mmh. Ok, et vous savez à peu près, vous avez à peu près un délai, c'est une idée là ou ça va être du concret ?
Alors non, c'est du concret. Dans la présentation politique, économique, enfin financière d'une commune, vous avez ce qu'on appelle le PPI hein, ou la PPI, hein, la programmation pluriannuelle d'investissement. Donc c'est anticiper les constructions, c'est anticiper les investissements en moyens matériels, hein, comme du matériel roulant, les véhicules, etc. Donc tout ça a été travaillé, réfléchi. Avec la commission finance, avec les différentes autres commissions, mais aussi le groupe majoritaire. Donc là, l'idée, c'est de ne pas attendre, justement.
Oui.
Là, nous allons, puisque cette parcelle, puisqu'on parlait du restaurant Les Tilleuls, hein,
oui.
Le restaurant Les Tilleuls, du fait qu'il y avait une opération d'aménagement programmée pour 10 logements, nous avons demandé à la préfecture que ces 10 logements ne soient pas réalisés, mais que ce soit 8 studios à caractère social, de manière à ce qu'on dispose davantage de place sur ce terrain, pour que l'on puisse, nous, la mairie, avoir une préemption, enfin disposer d'une préemption, et construire le bâtiment sur une partie de la parcelle. Ce qui est intéressant au niveau de cette parcelle, c'est qu'il existe une sente, et que cette sente va permettre aux enfants qui habitent le bas de Saint-Tri, donc à Allée des Peuplerets, etc., aux grandes rues Charles de Gaulle, de pouvoir l'utiliser en passant ensuite donc devant le service jeunesse, pour accéder ensuite dans le verger qui donnera à l'école des Renardeaux. Ça permettra en même temps aux familles de ne pas utiliser la voiture pour faire tout le tour de la ville et déposer leur enfant sur l'école des Renardeaux. Donc dans cette idée d'implantation de services jeunesse, il y a en même temps une idée d'écologie, de sérénité, d'apaisement pour les enfants qui n'auront pas systématiquement à prendre une voiture avec les parents, enfin à se retrouver dans une voiture pour aller gagner l'école, mais plutôt avec... les autres écoliers d'utiliser un petit chantier très sympathique, comme on pouvait le voir dans certains films d'antan, voilà, de certaines campagnes.
Une jeune maman qui nous dit « Je ne trouve pas de système de garde pour mon petit garçon d'un an et demi. Que pouvez-vous me conseiller ?»
Très bien. Alors, il existe sur la commune... Nous avons, au niveau de la commune, par rapport à la petite enfance, je tiens à saluer par la même occasion les élus qui travaillent avec le CIPEJ. Nous avons entrepris pas mal de démarches. Hein. S'agissant de la petite enfance, bah, vous savez que quand on est tout petit, on a besoin de berceau.
Oui.
Et puis quand on grandit, on a besoin d'assistante maternelle. Eh bien, pas très loin de la radio, il va y avoir une maison d'assistante maternelle.
Savoir où ça va se trouver.
Voilà, donc nous essayons en tous les cas de développer un maximum les maisons d'assistantes maternelles. Il y a également un relais d'assistantes maternelles qui se trouve sur Saint-Pierre. Nous avons, au-delà des assistantes maternelles, donc le centre multi-accueil Royal Baby, qui est composé de 25 berceaux, dont 13 pour la commune. Nous avons en même temps 4 autres berceaux, donc avec le CIPEJ, enfin 5 avec le CIPEJ, donc sur les autres communes, bon, on va dire Saint-Germain-Saint-Pierre. Et là, nous allons avoir avec Moulin Vert. Donc Moulin Vert, c'est 71 logements qui vont se construire sur la rue de l'Église. Donc construction qui n'est pas de notre fait, hein, s'il y a des félicitations apportées, c'est à la municipalité précédente, hein, pas à nous. Et donc, sur ce site, il y aura une crèche de 30 berceaux, dont 10 réservés pour la commune. Voilà, donc en termes de petite enfance, berceaux, oui, en quantité. Là, la commune n'en aura pas besoin de plus, c'est clair, au niveau des berceaux.
Mmh.
Et en termes d'assistance maternelle, bah, au-delà de la MAM qui est créée, il y a la RAM, hein, il y a quand même l'esprit communautaire qu'il faut avoir avant tout, parce que les communes voisines disposent de structures d'accueil. Puis en même temps, sur la commune, on a aussi des assistantes maternelles indépendantes.
Hein. Oui.
Il y en a pas mal. Hein.
Il y en a pas
Donc
mal.
Là, on demande un recensement justement pour les connaître toutes, et pour celles qui sont à la recherche d'enfants, bah, qu'on puisse faire le lien entre les familles et les assistantes maternelles.
Mais de toute façon, la personne peut se déplacer à la mairie, j'imagine. On lui donnera toutes les adresses et tous les contacts.
Exactement.
Une autre personne qui dit « Je suis souvent pris dans les bouchons le matin. Est-ce que vous pensez pouvoir améliorer ce problème ?» J'imagine que c'est les mêmes bouchons que pour tout le monde, y compris pour nous. Ça doit être la route de Melun. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ce problème ?
Alors, comme je suis de nature très honnête, je vous dirais qu'en termes de circulation, rien ne va aller en s'arrangeant. C'est pas possible. On a de plus en plus de monde sur l'Hexagone. On a de plus en plus sur les grosses agglomérations comme Paris et la banlieue, hein, de plus en plus de circulation. La seule chose que je peux vous dire, c'est que à Saint-Tri, non, ça ne pourra pas s'arranger, pas plus qu'à Morsan et les communes qui s'en suivent pour aller sur la Seine-et-Marne. Dans la mesure où, sur l'Essonne, parce qu'il faut avoir un aspect, enfin un regard plutôt régional, départemental et ensuite communautaire. Vous avez ce qu'on appelle l'opération Grand Paris Express. Grand Paris Express, c'est quoi ? Bah, c'est le tram-train, c'est le tramway. Nous avons également sur la communauté d'agglo le TZN. Donc des transports en commun que la commune de Saint-Try ne pourra pas rencontrer. C'est pas possible pour des raisons de coût. Donc le train-tramway, par exemple, Massy-Évry, par la suite devrait partir du côté de Saint-Germain. Plus tard, c'est ce qui était prévu, voir le Val-de-Marne en terminus. Jamais nous aurons un tram-train qui passera par Saint-Try. Le tramway, quant à lui, pour l'instant, il apparaît Vieille Poste. Prochain itinéraire, normalement, c'est Juvisy, l'intermodal. Vous pensez bien que s'il arrive jusqu'à Corbeil, puis après je ne sais où, c'est pas Saint-Try qui en bénéficiera. Donc si on s'attend à être aidé par l'opération Grand Paris Express, non, c'est pas possible, il faut être réaliste. Saint-Try ne disposera pas davantage de transports en commun de Grand Paris Express, mais plutôt des transports en commun que le département peut apporter comme aide, mais aussi la communauté d'agglo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous avons eu une réunion mardi avec Grand Paris Sud, mais nous en avions déjà discuté. Ce sont des sujets que d'autres maires, des sujets qui intéressent d'autres maires. Il n'y a pas que le maire de Saint-Try, notamment le maire de Morsan aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce sont des sujets qui sont compliqués dans la mesure où ça demande un investissement. Et que quand vous achetez un bus, il faut voir aussi la compétence du personnel. Donc si des Saint-Tryens s'imaginent que Saint-Try est en mesure d'acheter un bus avec un conducteur, ce ne sera pas possible. Pour pouvoir justement s'accorder le fait qu'on puisse privilégier les transports en commun. Maintenant pour les voitures, puisqu'il y a de plus en plus de voitures, nous on s'intéresse surtout aux voitures. Transports en commun, il faut que Grand Paris Sud nous aide. Voilà, c'est très clair. Le président Michel Bisson, il le sait, j'en ai déjà parlé. Le président François Durouvray, au niveau du conseil départemental, ne manquera pas prochainement d'être interrogé sur le sujet. Qu'est-ce qui peut être fait par le département pour nous aider, parce que les gens ne savent pas quelles sont les compétences du département, mais voilà, le département est là aussi pour nous aider et il nous aide. Je tiens à saluer aussi bien Grand Paris Sud, Michel Bisson, que le département pour François Durouvray. Et puis il y a aussi des aides qui peuvent nous être apportées par la MIF, l'Association des Mérites de France. Je pense notamment à Monsieur Stéphane Baudet, que je salue ce soir, et qui nous aide par rapport au transport, puisque nous envisageons, avec notamment le maire de Morsan, qui lui a déjà entrepris une démarche, nous ne sommes que sur la phase d'étude, ce qu'on appelle l'esquisse, pour réaliser une piste cyclable sur le chemin de Halage, ni plus ni moins, donc en bordure de Seine. L'idée qui a émergé de Morsan nous a tout de suite subjugués. Et cette idée, ensuite, elle a été partagée par Madame la maire du Coudray-Monceau, également Corbeil-Essonne, le maire de Corbeil-Essonne et le maire de Saint-Pierre. Donc là, en fait, nous retrouvons les 5 communes de la rive gauche comme de la rive droite, donc de Seine, intéressées pour faire un aménagement tout autour de la Seine. Pour nous, c'est du cyclable pour renvoyer les Saint-Tryens, les gens de Morsan, les gens de Saint-Pierre qui sont sur le haut, proche de Saint-Try, sur le Coudray-Monceau, en passant par la passerelle, donc le barrage du Coudray, oui. Donc Morsan-sur-Seine, pour ensuite aller chercher le RER, ce qu'on appelle Plessis-Chenet, c'est-à-dire l'ancienne station IBM. Et c'est là que M. Baudet rentre en ligne de compte, puisque le RER, c'est la région. Donc, avoir moins de voitures sur la route, plus de vélos et aller chercher le RER sur la rive gauche. Voilà, ça, c'est une des idées que nous avons pour diminuer le nombre de véhicules sur la route. Mais encore une fois, c'est une solution, ça n'est pas la solution. Et puis, autre petit projet qu'on avait évoqué peu de temps après notre arrivée, comme certains parmi nous connaissent bien la montagne, c'était de réaliser, ni plus ni moins, on ne va pas parler de funiculaire, mais on va parler de petits œufs, vous voyez, comme ça, de transport. Et puis d'avoir, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ça demande de l'entretien, ça demande du personnel. Et là, il faut qu'il y ait des zones de stationnement. Mais il peut y avoir des idées, mais là, on n'est plus sur un principe communal ou intercommunal. Dans un arrangement de petites communes avec des demandes de subventions, on serait plus sur un projet structurant avec Grand Paris Sud. Et j'espère que le président Michel Bisson nous écoute, parce qu'au-delà de tout ça, on a même demandé à monsieur le président de Grand Paris Sud qui puisse nous aider aussi sur l'aménagement du territoire par rapport à une propriété qui est en train d'être vendue, qui se trouve en bordure de Seine. On voudrait que l'activité nautique reste et demeure. Donc voilà, dans les mécènes dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas que le médical, mais il y a aussi la sauvegarde de nos activités. Et cette activité-là, on ne voudrait pas la perdre pour voir à la place des logements sociaux.
J'ai une personne qui pose une autre question concernant la loi SRU. Donc elle dit, jusqu'où ira la loi SRU qui impose des logements sociaux? Et où seront-ils construits puisqu'il n'y a plus de grands terrains disponibles en fait sur la ville?
D'accord. Alors la loi SRU, ce qu'il faut savoir, pour faire un petit historique, nous sommes dans le début des années 2000, nous avons l'explosion à ZF en 2001.
Oui.
De cette catastrophe en découlent naturellement des lois. La loi Bachelot, notamment, sur les risques industriels, et derrière l'aménagement du territoire. L'idée, c'était de dire, puisqu'il y a des maisons autour des usines, c'est trop dangereux, il faudrait presque supprimer les usines ou supprimer les maisons. Sauf qu'il faut bien se rappeler que les usines se sont construites avec des maisons réservées aux employés, et c'est comme ça que petit à petit, ces industries qui ont fait vivre durant des décennies des familles entières se sont vues être mises à mal à cause d'un événement majeur, qui a été catastrophique et dont les stigmates sont toujours là. Et puis petit à petit, on a progressé parce qu'il y avait aussi l'abbé Pierre qui revendiquait un toit pour tous, à juste titre. Et donc, quand vous mêlez tout, on a dit il faut qu'il y ait une cohésion du territoire dans son aménagement. Avoir de la cohésion, c'est mettre tout en commun. C'est-à-dire le besoin de construction pour pouvoir permettre aux familles de vivre correctement, soit en logement, en appartement, pardon, ou en maison individuelle, peu importe, mais en même temps que ces constructions ne soient pas à proximité de lieux à risque. Saint-Try, le risque majeur, c'est l'inondation de la Seine. Le second, c'est le glissement de terrain, je tiens à le préciser, parce que toutes les constructions ne sont pas possibles. Et c'est important ce que je vous dis là, parce que je vais mettre du lien avec ce qu'on appelle le PLU. Donc à l'époque, on parlait de POSCOS, plan d'occupation des sols, coefficient d'occupation des sols. Mmh. Tout ça, ça a été mélangé, mais ça existe toujours, mais dans ce qu'on appelle le PLU, plan local d'urbanisme. Et donc nous sommes vus sur Saint-Try-sur-Seine avec une révision du PLU en 2019 pour la dernière révision. Et dans cette révision, on a pu s'apercevoir que les petites parcelles pouvait se voir être constructible, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc aujourd'hui, avant de parler de logements sociaux, de Saint-Try-sur-Seine se voit avec beaucoup de propriétaires vendre une partie de leur terrain pour construire des maisons individuelles. Mmh. Alors quand vous avez une centaine de maisons individuelles qui se construisent, ça entraîne quoi en soi? Ça entraîne 25% de logements sociaux. Plus vous construisez,
plus il faut
de logements sociaux. Saint-Try-sur-Seine est à 11% de logements sociaux. Au lieu de 25. Quand nous sommes arrivés, au lendemain de notre investiture, nous avons eu la désagréable nouvelle d'apprendre que nous étions placés sous arrêté de carence. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pénalités, avec ce que l'on doit payer à minima plus les pénalités. Nous sommes sur un coût total de 173 000 euros pris sur le budget fonctionnement quand même, c'est-à-dire un budget du personnel. Nous avons appris donc que nous n'avions pas le droit aujourd'hui, de préempter, c'est le préfet qui le fait à notre place. Donc, il peut préempter n'importe quel terrain pour décider de construire des logements sociaux. Et j'avais dit d'ailleurs à un de ses représentants, mais c'est une démocratie dictatoriale en fait. Mmh. Et l'autre point, c'est que nous n'avons pas notre mot à dire sur l'affectation des logements sociaux. Donc, quand vous avez des Saint-Tryens qui sont dans le besoin, malheureusement, la partie qui était réservée au maire, on ne peut pas parler de pourcentage, un tiers le maire, un tiers la préfecture, un tiers le département, mais presque. C'est-à-dire que là, le contingent de la mairie revient à la préfecture.
D'accord.
Voilà, et ce sont plutôt les logements, c'est ce qu'on appelle DALO, qui deviennent les prioritaires. Donc pour répondre à la question liée à la loi SRU, parce que c'est très compliqué tout ça tout en étant simple, cette loi SRU, elle nous impose 25% de logements sociaux, pour rester simple. Nous n'en sommes qu'à 11%, et dès l'instant où on construit des logements ou des maisons donc non conventionnées, c'est-à-dire qui n'ont pas de caractère d'accueil social, eh bien derrière, nous sommes pénalisés parce qu'il faut réaliser 25% à chaque fois du nombre total de logements sur la commune en logements sociaux. Donc nous travaillons aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons toujours été honnêtes auprès des Saint-Triens. Dès le départ, nous avons dit si nous devions réaliser tous ces logements, nous serions à plus de 8000 habitants à la fin de notre mandat. Ça a été très clair. Nous sommes à pas tout à fait 6000, on a 5800 et quelques énorme. Habitants. Oui. Bien sûr, c'est énorme, parce qu'il faut compter les conventionnés et les non conventionnés. Donc nous avons été très clairs, ce qui ne veut pas dire en soi que nous allons le faire. Parce qu'il faut expliquer aussi au préfet que notre commune, eh bien, elle a des espaces qui sont, c'est pas ce qu'on appelle classés, mais inscrits, comme les espaces écologiques, etc. Et là, on ne peut pas construire sur cet espace. Il faut comprendre que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de propriétés. Il y a très peu de surfaces, finalement, sur lesquelles on peut construire. Donc ça, c'est important. Donc il faut faire comprendre que Saint-Try-sur-Seine, c'est aussi des risques. Risques d'inondation, risques de glissement de terrain. Et Saint-Try-sur-Seine, c'est aussi une commune où il y a des espaces verts, avec des arbres qui conviennent de protéger. Des arbres qui sont centenaires et d'autres qui sont de nature à être sauvegardés. Donc quand on mêle tout ça, on s'aperçoit concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qu'en fait, il y a plein de lois qui se contredisent. Quand vous avez une loi comme celle SRU qui vous dit qu'il faut construire du logement social, mais qui est confrontée à la loi sur l'environnement, qui elle vous dit qu'il faut protéger les arbres, alors on fait comment ? On fait comment ? Donc la question a été posée et nous avons eu pas mal de discussions sur certains permis de construire. Et là, pour les autres maires qui viendraient nous écouter, eh bien, ils s'y retrouveraient dans cette discussion parce que c'est vraiment un gros sujet. Et j'en terminerai par la loi 3DS, vous allez voir. Mais pour cette loi SRU, c'était plus possible. Donc qu'est-ce qu'a fait le maire de Saint-Try-sur-Seine avec les autres maires ? Ben, nous avons contacté les parlementaires pour leur dire « Écoutez, cette loi SRU, elle n'est pas possible. » Elle n'est pas possible pour nous, on entraîne la ruine des petites communes. Dans les grosses communes, vous avez souvent 30-40% des fois de logements sociaux, parce que c'est une ville nouvelle, parce que sur des anciennes villes comme nous, enfin petites communes, faire du neuf dans du vieux, c'est pas possible. Donc aller aménager beaucoup de constructions de collectifs, c'est pas possible. Donc il fallait absolument que cette loi SRU puisse être assouplie. Donc on a une loi 3DS qui vient de paraître là.
D'accord.
Et concrètement, ce que l'on devait faire en 3 ans, on nous l'autorise maintenant en 9 ans.
Okay.
Voilà. Mais nous allons mettre en avant, puisque Paris s'est pas fait en un jour, tous les éléments qui conduisent à dire que tout n'est pas constructible sur Saint-Try-sur-Seine. On ne peut pas prendre une carte et dire, voilà, il y a tant de surface, on peut aménager à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Surtout que vous avez des lois aussi qui vous imposent l'interdiction de construire à moins de 50 mètres des zones forestières. Et nous nous battons pour que cette loi soit respectée, coûte que coûte. Même si d'autres pensent qu'on peut construire, moi je vous dis que nous nous battrons pour ne pas construire. Et nous avons refusé des permis de construire. Voilà.
Merci de ces éclaircissements. Autre question, est-il possible d'envisager de mettre un dodane rue de l'égalité ? Parce que dans cette rue, les véhicules roulent à très vive allure.
Dodane sur la rue de l'égalité. Alors, ouais. Cette proposition dans les comités citoyens comme dans les différentes réunions d'urbanisme, elle n'a pas été posée. Alors, je voudrais juste dire que, attention, il y a dodane et dodane. Tout n'est pas possible.
De quoi faire ralentir, en tout cas.
Ouais, tout n'est pas possible. Alors, pour le ralentissement, par contre, c'est une question à laquelle il faut qu'on regarde concrètement sa faisabilité sur le terrain. Je ne peux pas, sincèrement, pour une fois, voyez, je ne peux pas vous répondre comme ça. Ce qui prouve que ce sont des questions qui sont inopinées, mais pas préparées. Non, par contre, je vous répondrai en tous les cas sur ce sujet, sur la rue de l'égalité. Mais quelles sont les actions par rapport aux réunions de quartier sur les questions de sécurité qui ont été posées ? Donc, quelles sont les réponses qui ont été apportées ? Avant tout, c'est de renforcer d'abord la prévention et ensuite la répression. Nous allons avoir un troisième policier. L'idée, c'est d'avoir 3 policiers municipaux, 2 ASVP. Nous allons passer une convention, puisque nous sommes communautaires. Ça va passer demain au conseil municipal. Donc, on verra bien si c'est accepté ou pas. Mais avec la police municipale d'Evry-Courcouronnes, qui va venir renforcer les effectifs de Saint-Try, notamment le soir. Et donc, l'idée, là, c'est de faire des polices routes. Au départ, comme je vous l'ai dit, de la prévention. On n'est pas là pour réprimander de suite. Donc tous ceux qui se rendent excès de vitesse, etc., on a fait déjà des opérations de police suite à la dernière réunion de quartier. D'ailleurs, les habitants peuvent en témoigner. C'était Sentier des Chèvres. Et nous avons eu 7 personnes qui ont été identifiées comme étant pénalement... Enfin, qui est en infraction, pardon, qui est en mesure de se voir infliger une amende pour téléphone à l'oreille, pour excès de vitesse, etc., mais des petits excès de vitesse. Hein. Donc la police municipale a fait de la prévention. Elle leur a dit, voyez là, vous roulez un peu trop vite, voyez là, le téléphone, c'est pas bien, etc. Donc opération déjà de prévention, puis après, si les gens ne comprennent pas, ce sera de la répression, donc des amendes à la clé. Malheureusement, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Nous avons eu dernièrement, vous voyez, sur le marché de Saint-Try-sur-Seine, parce qu'on a mis en place un marché depuis l'été dernier.
C'est vrai, je n'ai pas de questions sur le marché, mais il s'est étoffé, en tout cas.
Parce qu'en fait, souvent, ce qui marche bien, ce qui est partagé, tout ce qui peut représenter la joie, etc., ça n'intéresse pas grand monde, finalement. Les médias s'intéressent plus à ce qui ne va pas, à la méchanceté. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne met pas suffisamment en avant les actes de bienveillance, l'empathie, etc., que certains peuvent avoir à l'égard des autres. Donc, pour revenir sur ce marché, malheureusement, deux dimanches de suite, malgré la prévention au départ, on a dû mener des actes de répression et on continuera. C'est-à-dire qu'il y a eu au total 6 véhicules qui sont partis à la fourrière.
Ah oui, d'accord, pour libérer l'espace pour les commerçants.
Exactement, exactement. Mmh. Et il serait malvenu que ce soit comme ça tous les dimanches, parce que ça mettra à mal notre marché. Et il est en plein développement. Nous avons 11 commerçants, les Saint-Triens se réjouissent d'aller au marché parce que c'est un lieu de rencontre.
Je confirme.
C'est un lieu de rencontre.
Il y a beaucoup de monde.
C'est gentil de le confirmer.
Plus en plus de monde. Non, c'est vrai, ça manquait. Et en tout cas, on peut voir qu'il y a de plus en plus de monde. Il s'est étoffé, donc c'est ce que je disais. Maintenant, il est sur les deux côtés de la rue. Et c'est très bien, parce que quand on n'a pas de jardin, on peut aller acheter ses fruits et ses légumes. Ou même quand on en a, d'ailleurs. J'ai deux dernières questions qui concernent toutes les deux l'éclairage. Alors, j'ai une personne qui me dit « On constate souvent des lampadaires allumés en pleine journée sur la commune ». Ce qui n'est pas très économique. Pensez-vous qu'il serait possible d'éviter cela ? Et d'autre part, pouvez-vous les éteindre une partie de la nuit ? Pouvez-vous me dire si ces lampadaires aussi sont équipés d'ampoules LED ?
Ah, ce sont des bonnes questions. Pas au courant. Non, je plaisante. En ce qui concerne l'électricité, comme beaucoup de communes sur Grand Paris Sud, l'éclairage public, comme je le disais tout à l'heure pour l'assainissement, ça relève de la compétence de Grand Paris Sud. C'est plus la commune.
C'est plus la commune.
Ouais. Mais peu importe. C'est pas grave. Peu importe. Quand vous posez la question sur les LED, donc aujourd'hui, Grand Paris Sud a passé ce qu'on appelle un DSP. Donc on est sur. C'est pas fait en régie, les travaux sur. On est sur. Une prestation de service, donc une délégation à DSP, délégation de service, de prestation de service, DPS, pardon. On est sur une DPS et c'est la société SPI qui était retenue. Donc là, le marché, ils l'ont jusqu'au 31 décembre 2022. Ils l'auront peut-être par la suite, mais vous savez que...
Oui, c'est des appels d'offres.
Exactement. Et donc, le prochain marché, dans le cahier des charges, il y aura tout ça. C'est-à-dire qu'on va tout passer en LED. De manière à ce qu'on respecte d'ailleurs les règles, mais ensuite qu'on préserve l'environnement. Donc pour la partie LED, pas maintenant, c'est prévu. C'est dans le schéma directeur, on va dire, dans la programmation pluriannuelle d'investissement, mais de Grand Paris Sud, puisque ce n'est plus de la compétence de la commune. S'agissant maintenant de l'éclairage la journée,
oui.
C'est une très bonne question, parce que tout comme vous, je m'étais interrogé. Mais à chaque fois, la réponse est bien là. Et la réponse, c'est SPI qui nous l'a apporté, enfin la société, donc la délégation. En fait, ils réalisent des tests. Et sur certains circuits, il faut qu'il y ait une ampoule témoin. Donc c'est pour ça qu'on voit clairer. Donc, soit ils réalisent des travaux, des tests sur les différents circuits, soit il faut qu'il y ait un candélabre témoin. Et c'est pour ça que ça claire tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose de. Enfin, c'est pas de la négligence, c'est tout simplement dans le process. Et donc, que les Saint-Triens qui voient ces éclairages comme ça à la journée pendant plusieurs heures, et voire même des fois tout un week-end, non, c'est tout à fait normal, c'est parce que la société SPI travaille dessus.
D'accord. Et l'autre question qui est en relation avec ça, c'était y a-t-il des projets sur le prochain marché de détecteurs de mouvement à mettre en place justement pour éviter que ce ne soit pas allumé toute la nuit, par exemple, parce que la Saint-Tri s'est allumée toute la nuit. Ça permettrait de faire des économies et de limiter la pollution lumineuse.
C'est vrai que la pollution lumineuse, on n'y pense pas souvent. C'est vrai. C'est vrai. C'est d'ailleurs un élément important. Je ne sais pas si on pourra y répondre. Parce que malheureusement, l'être humain, dans sa bonté, parfois peut être très méchant. Vous savez qu'il y a le bien comme le mal, et ce qui fait la force des gens de mal, c'est l'inaction des gens de bien. Et le problème qui se pose, c'est que si vous mettez toute la commune dans la nuit totale, nous aurions certainement de gros problèmes de sécurité, vu que nous sommes excentrés, nous sommes à la proie hein, de cambrioleurs, à la proie aussi d'incivilité, hein, malheureusement, on a entendu parler dernièrement. Hein. Donc, plus les gens se trouvent dans l'obscurité, plus on leur donne cette possibilité
C'est
de
vrai.
nuire aux autres. Donc, c'est un gros débat. De toute façon, on a décidé de l'affronter, hein, ce problème. Hein. Donc, on va en échanger. D'ailleurs, cette question avait été posée par une équipe de l'opposition. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour tenter d'éteindre toutes ces lumières la nuit, etc. On leur a dit, ben, travaillez le projet. Il n'y a aucun souci, et comme ça on pourra en échanger, on pourra en débattre, hein, c'est ça la démocratie participative. Donc on attend leur dossier, mais sachez que non, non, c'est pas quelque chose qu'on va mettre de côté, alors absolument pas. Il faut qu'on étudie tout, et pour rien vous cacher, nous avons développé l'implantation de caméras, donc la télé surveillance. Ces caméras vont être raccordées au CSUI de Corbeil-Essonnes, c'est-à-dire le centre de surveillance urbain intercommunal, mais on dit Corbeil-Essonnes, mais c'est Grand Paris Sud, hein. C'est géré par la communauté d'agglo. Ces caméras, pour certaines, sont très sophistiquées, donc le fait d'avoir des caméras infrarouges ou autres, avec des lectures de nuit, voyez, sur certains endroits, peuvent nous autoriser à ne pas avoir d'éclairage la nuit. Parce que le cambrioleur, ou peu importe, celui qui voudrait commettre un acte malveillant, pour être repéré de suite et ensuite avoir de suite une intervention des services de police, gendarmerie.
Mais le fait d'avoir des détecteurs de mouvement, ça peut, enfin, je veux dire, s'il y a une personne mal intentionnée, ça s'allume de toute façon, donc ça peut alerter peut-être le voisinage.
Oui, mais ça voudrait dire pas très longtemps, hormis dans les petites rues, hein. Ce serait efficace, mais sur les grands axes, vous avez toujours des voitures qui passent, vous avez
Oui,
toujours.
c'est vrai.
Donc tout ça mérite plus de débat. En fait, comment nous fonctionnons, nous, avec l'équipe, on part du principe où il faut déterminer la situation. À partir du moment où il y a une situation qui est clairement définie, on se pose la question, quels sont les objectifs à atteindre? Et par rapport à ces objectifs, pour les atteindre, c'est ce qu'on appelle des petites idées de manœuvre, quoi, c'est-à-dire des propositions. On est force de proposition, et ces forces de proposition, on en tire des conclusions à avantages, inconvénients. Et on retient ce qui est le plus avantageux. Sur trois items, est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est d'intérêt général? Et combien ça va nous coûter?
Aussi.
Voilà.
Ben merci, monsieur le maire. C'était mes dernières questions pour ce premier numéro. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, on invite tous les Saint-Triens et les Saint-Triennes à nous envoyer, même dès maintenant, pourquoi pas. Ils peuvent continuer à nous envoyer les questions. Et puis, on se retrouvera certainement très prochainement quand on aura pas mal de questions. Merci, monsieur le maire.
Merci à vous Nathalie, merci à Théo, merci à toute l'équipe et merci aux auditeurs qui ont bien voulu nous
Exactement,
écouter.
merci à eux. Bonne soirée.
Merci à tous.